le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, l'heure de vérité sur le niveau du déficit public de la France. Réponse dans 42 minutes de la bouche de l'INSEE. Boeing ne pouvait plus continuer avec le même patron. Dave Calhoun va partir à la fin de l'année. Et puis, il y a des besoins, il y a des salaires très attractifs. Le secteur de la cybersécurité recrute. Ce sera à 7h30, pétante, la publication par l'INSEE des chiffres du déficit public pour 2023. Il était annoncé à 4,9% du PIB, mais on s'attend finalement à 5,6% à cause d'une croissance et de rentrées plus faibles que prévues du côté de la fiscalité. Aux dernières nouvelles, le montant du déficit en euros était estimé à 173 milliards. Tout cela pose quand même question, d'où vient ce trou dans la caisse, cet immense écart entre les chiffres d'il y a 6 mois et l'atterrissage final. Les recettes fiscales, donc en particulier, ont été plus faibles que prévu, explique Marc Toiti, le président d'ACDFI.
C'est très simple, en fait, il y a eu un excès d'optimisme sur les recettes fiscales, que ce soit notamment les recettes d'impôts sur les sociétés. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ont déposé le bilan ou sont en défaut de paiement. Donc évidemment, s'il n'y a pas d'entreprise, il y a moins de collecte d'impôts sur les sociétés. Pareil sur l'impôt sur le revenu, les revenus ont été moins élevés que prévu. Et enfin, recettes sur la TVA, la consommation a été moins bonne. Donc ça veut dire aussi que peut-être que les chiffres du PIB sont un petit peu gonflés, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage entre finalement une croissance qui a été relativement correcte, va-t-on dire, et puis les recettes fiscales qui ne sont pas au rendez-vous. Donc le vrai danger, c'est que on risque d'être dégradé dans les prochaines semaines parce que justement on ne respecte pas nos engagements.
Les conséquences du coup de froid qui s'abat sur les finances publiques sont très concrètes pour de nombreuses missions de l'État. Prenez France Travail, l'ex-Pôle emploi. Son budget des 4 années à venir va être beaucoup moins élevé que prévu. Éric Mauban, le journal Les Échos révèle l'information ce matin.
Un gros coup de rabot, en effet, sur les budgets qui avaient été présentés lors de la dernière loi de programmation des finances publiques. Les sommes allouées pour l'année prochaine ne sont pas modifiées. En revanche, pour 2025, ce sera 100 millions d'euros en moins, le double pour 2026, le triple pour 2027. Au total, 600 millions d'euros, donc, de budget en moins pour France Travail qui se profile. 600 millions d'euros, c'est près d'un quart des 2,5 milliards d'euros qui avaient été annoncés lors de la transformation de Pôle emploi en France Travail. Cette coupe budgétaire va compliquer le retour au plein emploi que vise le gouvernement. Elle devra être votée lors du budget 2025, à moins que la conjoncture économique s'améliore d'ici là et facilite le redressement des comptes publics.
Éric Mauban en direct. Les finances publiques françaises, la dette publique, surveillée par les agences de notation Fitch et Moody's, vont réactualiser leurs notes pour la France dans 3 semaines. Standard & Poor's, ce sera en juin. Les marchés financiers, eux aussi, surveillent tout cela. Le taux à 10 ans des obligations françaises est de 2,84%. L'Allemagne est à 2,36. Et donc un spread, un écart de presque 50 points de base aujourd'hui. Les marchés financiers qui hier ont fini plutôt dans le rouge, moins 0,41% pour le Dow Jones, Nasdaq moins 0,27%, CAC 40 stable à 8151 points. Le Nikkei, lui, est en très légère hausse en ce moment à Tokyo. L'euro vaut 1,0847 et le baril de Brent, le pétrole, est à 86$. C'était devenu intenable pour Dave Calhoun, le directeur général de Boeing. Il a annoncé hier son départ, ce sera effectif à la fin de l'année, après plusieurs incidents très médiatisés. La situation a été devenue particulièrement critique en janvier, lorsqu'une porte de secours d'un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines s'était détachée de la carlingue en plein vol. Il est temps donc pour Boeing d'écrire un nouveau chapitre. Écoutez ce qu'en pense Marc Durance, associé au sein du cabinet de conseil Indéfi, en charge du secteur aéronautique.
On est dans une situation où, avec la pression de l'autorité américaine, il est nécessaire que Boeing donne des signaux forts sur sa volonté d'enfin remettre de l'ordre dans son organisation industrielle. Cette équipe n'a pas été capable de mettre sous contrôle l'appareil industriel de Boeing et qu'il est temps de faire venir de nouvelles têtes. Et d'ailleurs, la remplaçante pour l'aviation commerciale est la directrice des opérations. Donc, ça reflète l'idée de faire monter des gens qui ont une vraie culture industrielle et ingénieur plutôt que des gens qui ont plutôt une culture financière.
Boeing peut-il se relever dans cette crise de confiance? David Barou nous en reparle dans 1 heure, à 8h05 dans son décryptage. L'intelligence artificielle, les réseaux numériques, la démocratisation de l'outil informatique. La France a dévoilé sa feuille de route pour répondre aux objectifs du plan européen décennie numérique. Un plan lancé il y a 3 ans qui fixe les objectifs concrets pour les États membres, l'amélioration des compétences numériques, la mise à niveau des infrastructures, la transformation des entreprises, les services publics aussi. Et pour le moment, Éric Kioch, la France présente un bilan mitigé.
Parmi les réussites de notre réseau de télécommunications, la France est numéro 1 européen de la fibre. D'ici 2025, l'ensemble du territoire sera couvert. L'objectif européen sera rempli avec 5 ans d'avance, se félicite le gouvernement. Mais des efforts restent à faire en matière de 4 et 5G. Paris espère renforcer ses infrastructures avec une couverture des axes ferrés à 90% dans les 2 ans. Plus largement, à l'horizon 2030, la France veut miser sur le développement des câbles sous-marins pour renforcer son intégration au réseau mondial. Le gouvernement a également reconnu un retard dans la transformation numérique des entreprises, les TPE, PME en particulier. Pour les accompagner, l'initiative France Num, dotée d'une enveloppe de plus de 60 millions d'euros, il s'agit de formations proposées aux entreprises et à leurs salariés. Encore aujourd'hui, 3 entreprises sur 10 n'ont pas de site internet. Enfin, l'objectif des 400 000 personnes formées aux compétences numériques avancées devrait être tenu et 250 démarches publiques essentielles seront disponibles en ligne dès 2025.
Éric Cuoche, 4 millions dans le monde, c'est le chiffre de postes vacants dans le domaine de la cybersécurité. Rien qu'en France, la demande est estimée à 15 000 postes, et encore c'est plutôt la fourchette basse. À l'avenir, cela devrait bondir, la demande devrait bondir de 90% d'ici 2030. Le recrutement et la formation des futurs talents, c'est un enjeu clé hein, au moment où s'ouvre le Salon international de la cybersécurité, ce forum à Lille. Car malgré des salaires très attractifs, allant jusqu'à plus de 100 000 euros bruts par an, les candidats manquent, se désolent. Philippe Trouchot, responsable cyber chez PwC pour la France et le Maghreb.
Pour faire face à cette pénurie, il y a un énorme effort de pédagogie à faire. Ces métiers, il faut aller les expliquer, y compris dans les lycées, pour motiver les étudiants à rentrer dans des cycles d'ingénieurs. Et puis surtout, il y a un énorme problème de mixité. Il y a très peu de femmes dans les professions cyber. Ces métiers sont pas connus. En fait, on en a plutôt une mauvaise image de geek avec un sweat à capuche. Alors que bon, ça offre beaucoup d'autres perspectives. Tout le monde n'a pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour travailler dans cette filière. Il y a de multiples métiers qui vont de la formation à la gestion des risques, à la gestion des assurances. Mais encore faut-il que notre profession sache les expliquer.
Et puis face aux GAFAM, la Commission européenne a tapé du poing sur la table. Hier, elle a lancé des procédures à l'encontre d'Alphabet, c'est-à-dire Google, d'Apple et de Meta, c'est-à-dire Facebook. Il leur est reproché des abus de position dominante qui sont désormais contraires aux nouvelles au règlement européen en la matière. Et il prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mondial en cas d'infraction grave et répétée. Ça, ce serait historique. Bruxelles s'est également doté d'un pouvoir de démantèlement des contrevenants. Une arme de dissuasion massive et de dernier recours. Écoutez l'avis de Franz Imbervière, le président d'Ubecom, société de conseil en souveraineté numérique.
C'est bon pour démontrer qu'on applique des règlements et qu'on les fait pas pour rien, parce qu'il y a réellement une position dominante de la part du GAFAM aujourd'hui sur le marché européen. En contrepartie, à le faire systématiquement, ça peut nous amener à nous mettre en opposition avec eux, et ils ont des moyens très nettement supérieurs à ceux de l'Union européenne. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on cherche à défendre la notion de souveraineté numérique en Europe. Il y a la veille des élections européennes, c'est important. Mais on cherche aussi à vouloir exporter notre innovation numérique. Et quand on va aller sur le marché américain, on risque de se retrouver, comme dans les échanges douaniers entre le fromage et les alcools, dans une balance commerciale qui va pas forcément être en notre faveur, parce que les Américains pourraient mettre des blocages à la consommation de solutions européennes numériques sur le continent. Ce serait pas en notre faveur, ça.
Aujourd'hui s'ouvre à Dunkerque le congrès annuel de la FNSEA, le premier syndicat des agriculteurs qui représente 55% de la profession. Si vous l'avez raté, je vous recommande la chronique de Natacha Valla. C'était ce matin à 6h20. Les classiques de l'économie consacrés aujourd'hui à l'agriculture. Vous pouvez retrouver les classiques de l'économie en podcast sur l'application Radio Classique. Dans quelques instants, David Abiker et Virginie Fulpin.